Chapitre 33e. Comment le poète et le philosophe trouvèrent le moyen de voir la bataille sans risquer un poil de leur barbe. Trois jours plus tard, Roland et ses amis étaient en vue de Grenade. De la terrasse du palais, on voyait au loin leurs tentes et leurs étendards. À cette vue, Corisande frémit de joie. Il ne douta pas d'une délivrance prochaine. Guéphéroce lut sa pensée dans ses yeux et en fut irrité. Cependant, il contint son ressentiment et essaya de la fléchir par les prières. Malgré les promesses du vaillant don Bernard de Carpio, il n'avait pas grande confiance dans le succès de ses armes, et quelque brave qu'il fût, la pensée de rencontrer Roland ne laissait pas de le troubler un peu. Mais Corisande resta inflexible. Ni supplication ni menace ne purent lui faire rompre son dédaigneux silence. Guéphéroce la quitta, résolu à la poignarder plutôt que de la laisser aux mains de son rival. Et il alla rejoindre Don Bernard de Carpio, qui était, à son propre avis, le plus noble et le plus vaillant gentilhomme de la chrétienté. Le sombre Hidalgo était assis sur un sofa, non loin de Doralis, et la regardait avec des yeux fort doux. Tous les sujets de conversation étaient épuisés, et le Matamoro sentait qu'il était temps de se déclarer ou de partir. Mais il n'osait se déclarer, et il ne voulait pas partir. Fort heureusement, l'entrée de Guéphéroce le tira de ce double embarras. « Voici l'ennemi, » dit Guéphéroce. « C'est maintenant, don Bernard, qu'il faut tirer du fourreau votre invincible épée. » « Roland n'en pourra soutenir la vue, » répondit le Matamoro d'un ton superbe. Et il se posa devant Doralis, une main sur la hanche et l'autre sur la garde de son épée. Cette attitude héroïque fit le plus grand effet sur le cœur de la reine. Elle ne douta pas de la victoire de don Bernard de Carpio. Le cœur des femmes sensibles est au fanfaron. Guéphéroce, aussi brave que le Matamoro, mais plus sensé que lui, se hâta de l'emmener et de le conduire au rempart. Toute la population de Grenade était déjà sous les armes et attendait en tremblant le signal du combat. De leur côté, les chrétiens s'avançaient en bon ordre pour donner l'assaut. À ce moment décisif, le comte d'Angers sonna trois fois de son redoutable olifant. Ces sons si connus et la vue du héros firent passer un frisson de frayeur dans les veines de tous les Sarrasins. Guéphéroce seul et le Matamoro n'en furent pas ébranlés. Rimbaud s'avança, porteur d'un drapeau blanc, et entra dans Grenade. « Voici, dit-il à Don Guéphéroce, les conditions que vous offre le comte d'Angers. Vous rendrez la ville de Grenade et la princesse Corisande, vous recevrez le baptême, vous paierez la dîme de vos biens à l'église catholique, représentée par le pieux archevêque Turpin, et vous reconnaîtrez la suzeraineté du grand empereur Charlemagne. Si vous résistez, vous serez tous pendus. » Après avoir prononcé ce petit discours d'une voix assez ferme, Rimbaud ne put s'empêcher de trembler en voyant la fureur effroyable qui était peinte sur le visage de Guéphéroce. Le Sarrasin leva sur lui son cimeterre, et si le respect dû au héros ne l'avait arrêté, il lui aurait coupé la tête sur le champ. « Va dire à Roland, » s'écria-t-il d'une voix altérée par la colère, « qu'il ne reverra jamais Corisande. Je la tuerai plutôt que de la lui céder. » « Dis-lui aussi, » ajouta don Bernard de Carpio, « que le petit-fils de don Pélage le défie en combat singulier à la lance, à l'épée, à la dague. » Rimbaud revint au camp des assiégeants et rendit compte de sa mission. Le défi de don Bernard de Carpio fit sourire le comte d'Angers. La menace de Guéphéroce le fit trembler pour la vie de Corisande, mais comme il n'était pas homme à délibérer longtemps, il se hâta de donner le signal de l'assaut. « Rimbaud, » dit le pêcheur de truites, « avant ce soir, les fossoyeurs ont de l'ouvrage. Veux-tu voir toute la bataille, sans peine et sans danger ?»« Volontiers, » dit le Gascon, qui suivit son ami avec empressement. Le pêcheur de truites marcha quelque temps autour des remparts, jusqu'à une vieille tour abandonnée qui bordait un précipice, et que pour cette raison les grenadins avaient oublié de garder. En s'aidant des ronces, des buissons et de quelques plantes vivaces qui étaient incrustées dans le mur, ils arrivèrent en quelques minutes au premier étage de la tour et descendirent dans l'intérieur, non sans mille dangers de se rompre le cou. « Où me mènes-tu ? » demanda le Gascon inquiet. « As-tu peur de périr ? » répliqua le pêcheur de truites. « Ma tête, » dit Rimbaud avec dignité, « est celle d'un grand poète, et j'en dois compte à la postérité. » Ali haussa les épaules. « Bah, » dit-il, « je réponds de ta tête. » Vois-tu cet immense observatoire qui est au bout du palais de Doralis et qui domine au loin la campagne?
Je le vois.
C'est celui de l'astrologue du vieux Stordilan. Le roi est mort et son astrologue est allé chercher fortune ailleurs. L'observatoire est désert. En montant au sommet, nous verrons tout le combat sans risquer un poil de nos barbes.
J'ai une idée, dit tout à coup le Gascon.
Oh oh, dit le pêcheur. Voyons ton idée. Si nous allions chercher Roland, et si nous l'amenions ici par le même chemin que nous avons suivi, qu'en dis-tu?
Oh, tête sans cervelle, répliqua le pêcheur.
Si Roland entre par là, du premier coup, il sera maître de Grenade. Il enlèvera Corisande, et nous n'aurons pas notre bataille. Avec quoi feras-tu ton poème? Laisse-les se chamailler et se casser la tête en liberté.
Mais, dit Rimbaud.
Bon, je t'entends. Tu veux sauver la princesse persécutée, âme compatissante.
Eh, laisse-les pleurer tout leur aise.
Elles ne sont jamais plus intéressantes que quand elles ont mouillé 6 mouchoirs.
Ma foi, dit Rimbaud, tu as raison.
Si Corisande est poignardée, j'en aurai du chagrin. Mais sa mort fera un beau chant pour mon poème. Après tout, Briseis n'était pas fort à son aise dans la tente d'Agamemnon. Didon valait bien Corisande, et ne s'en est pas moins coupé la gorge.
Je ne connais pas Briseis et Didon, dit le pêcheur. Je suppose qu'elles étaient toutes deux très malheureuses et très intéressantes.
Mais nous perdons le temps à philosopher au lieu de voir la bataille.
Vite, vite, à l'observatoire.